7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi et aujourd'hui, quelle place pour l'apprentissage des arts à l'école? Musique, danse, art plastique, théâtre sont souvent considérés comme des disciplines totalement secondaires quand elles ne sont pas inexistantes faute de moyens dans certains pays. Et pourtant, elles permettent de développer la créativité, l'imagination, la confiance en soi. Alors comment articuler ces matières artistiques avec les enseignements de base? L'art à l'école peut-il aussi aider les élèves en échec scolaire à révéler leur sensibilité, leur personnalité? Et surtout, comment l'enseignement artistique permet à tous d'accéder à la culture? On va en parler avec nos invités. Bonjour Christiane Hert.
Bonjour.
Vous êtes formatrice à l'école supérieure du professorat et de l'éducation, donc de l'Académie de Paris, Sorbonne Université, c'est-à-dire que vous formez des profs d'art plastique qui, eux, enseignent en collège, en lycée, c'est bien ça?
Je forme effectivement des professeurs qui vont enseigner les arts plastiques en collège et en lycée, et je forme également les professeurs des écoles qui enseignent à l'école maternelle et à l'école élémentaire et qui, eux, sont polyvalents, qui intègrent l'enseignement artistique et qui créent des liens entre l'enseignement artistique, l'histoire, la géographie.
Ouais, parce que l'enseignement artistique est présent en France dès l'école primaire.
Dès l'école maternelle.
Maternelle.
Donc,
même.
Dès la petite section de maternelle.
Charles Dumas, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez l'Académie des Arts à la Fondation des Apprentis d'Auteuil, une Académie des Arts que vous avez créée il y a deux ans.
Hein. Il y a deux ans.
La Fondation des Apprentis d'Auteuil, dites-nous ce que c'est en quelques mots.
La Fondation Apprentis d'Auteuil, aujourd'hui, a 160 ans. C'est une belle organisation qui regroupe 230 établissements en France et à l'outre-mer et qui accueille plus de 30 000 jeunes et enfants. Alors, donc, ça va de 0 à 25 ans.
Des jeunes, évidemment, souvent en difficulté scolaire, sociales, qui
Exactement.
Ont eu très très peu ou pas du tout d'accès à la culture.
Et voilà.
Et vous nous direz ce qu'on peut faire, ce qu'on découvre aussi comme merveille oui. avec ces jeunes.
Absolument.
On sera également en ligne avec Marie-Madeleine Ndoundou, créatrice et coordinatrice du Centre d'éducation artistique pour enfants et la Youla Academy à Kinshasa en République démocratique du Congo. Et en fin d'émission, comme chaque vendredi, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs, avec une toute nouvelle série qu'on démarre aujourd'hui, une série sur les pères, qu'est-ce qu'être père ici et ailleurs. On revient sur les arts à l'école. Je vous lis quelques messages postés par nos auditeurs sur nos réseaux sociaux. Brice Ayaoundé nous dit qu'il a reçu une éducation artistique à l'école. J'ai choisi la poésie, mais on pouvait apprendre à danser, on pouvait apprendre à dessiner ou à chorégraphier. J'étais timide, la poésie m'a aidé à m'ouvrir aux autres, à les comprendre. J'ai pu parler de moi, de mes émotions, de mes peines. C'était vraiment une source d'apaisement, écrit Brice. J'ai connu une déception amoureuse ensuite, et grâce à la poésie, à mon stylo, cette déception n'a pas eu trop d'emprise sur moi. L'éducation artistique a aussi enrichi mon vocabulaire. J'ai parcouru le dictionnaire pour mieux rimer. Benoît, à Goma, à l'est de la RDC, un de mes professeurs de philosophie nous disait que le dernier cours à enlever du programme, c'était le cours de musique. Extraordinaire ça quand même. Hein. Et aujourd'hui j'enseigne la philo et je remarque que ceux qui connaissent la musique réussissent toujours. La musique développe la mémoire, l'intelligence. Malheureusement les élèves négligent ce cours dans mon pays. Vous êtes d'accord avec ça?
Mais complètement. Dans tout ce qui est dit, nous le vivons chaque jour avec ces jeunes décrocheurs. Et effectivement, l'art, pour nous, sert à raccrocher, réconcilier ces jeunes avec ces enseignements classiques et donc de les inscrire, je dirais, dans une dynamique d'expérience où, effectivement, je rejoins cette notion de la cohésion, de la découverte de soi, découverte des talents.
Exactement. Alors, on a un autre témoignage aussi de Dina, qui est enseignante français et qui s'est occupée d'un concours de théâtre en français dans un lycée à Madagascar à Ambatondrazaka qui est dans la région de Tamatave. Et voici ce que nous dit Dina. Mes élèves ne savaient pas ce que c'était que le théâtre. Je les ai initiés et ceux qui étaient intéressés, ils ont intégré la troupe en vue du concours. Le théâtre aide à la formation, à la cohésion d'un groupe. Il apprend l'entraide, donc c'est un peu comme le foot hein, finalement. Tout le monde est responsable de l'équipe. Le théâtre permet de vivre des expériences et ouvre au monde et à d'autres cultures. Bourgeois, à N'Djamena aussi, au Tchad. Et alors voici ce qu'il nous dit Bourgeois. Enseigner les arts à l'école permettrait aux enfants de faire autre chose que de devenir administrateur civil. Dans ma communauté du sud-ouest du Tchad, faire de la musique est qualifié de banditisme. Je le cite, c'est quand même un mot très fort. Voilà, ben en tout cas, il y a de quoi débattre. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr, vous nous suivez sur les réseaux sociaux.
7 milliards de voisins et la planète sépare.
Tout de suite, reportage à Marseille. Enseigner la danse à des collégiens dans le quartier considéré comme le plus pauvre de France. C'est le 3e arrondissement de Marseille. C'est l'idée du projet Adolescence, porté par CLAP, une maison dédiée à la danse et à la création chorégraphique, qui a été ouverte en 2011 par le chorégraphe Michel Kelemenis. Une fois par semaine, toute une classe de 6e vient dans cette maison de la danse pour apprendre une chorégraphie en vue d'un spectacle de fin d'année. Charlie Dupio a assisté à ce cours de danse mixte, filles et garçons.
Chut. Alors attention, cet exercice se fait en silence, on utilise son corps, on n'utilise pas sa voix.
Chut.
Allez, c'est parti.
Je m'appelle Gabriel Sambéré, j'ai 11 ans et je suis à l'école. École Edgar Quinet en 6e 2.
Utilise toutes ces parties du corps.
Et alors là, tu participes à cet atelier de danse. Tu danses avec ta classe. Qu'est-ce que ça te fait aussi de danser avec ta classe, les gens que tu vois tous les jours?
On n'a pas encore dansé devant des gens. En même temps, on a fait toujours du théâtre en école primaire. Donc je crois que ça a amélioré ma timidité, parce que moi je suis un peu timide, c'est pour parler aux gens, surtout. Souvent j'essaye de pas me faire voir. La timidité, c'est bizarre parce que à des mariages, des fois tu peux connaître personne, tu danses devant tout le monde et des fois t'es derrière alors que t'es avec la classe que tu connais. Quand on arrive bien à danser, on voit pas le temps passer.
Les garçons, avancez s'il vous plaît. Donc on va reprendre la qualité. Qui est ?
Eh ben, on est censé bouger, mais très lentement. Enfin, comme une feuille qui tombe d'un arbre, tout doucement.
Voilà. Donc, on va reprendre la qualité légère. Je touche une partie des corps, elle répond par un geste léger. Mettez-vous par deux, et les garçons, on change un petit peu aussi.
Les garçons ne se mettent pas avec les filles, c'est ça ?
Non. Beaucoup de difficultés à les mélanger. Allez, c'est parti !
Ryan, j'ai 12 ans. Comment tu voyais la danse avant ?
La danse, c'est pour les filles. Mais maintenant, comme je vois qu'il y a des garçons qui font des spectacles, je me dis c'est aussi pour les garçons.
Mélinda, j'ai 11 ans.
Et toi, quand tu danses, tu es très à l'aise. Ça a l'air de beaucoup te plaire.
Je sens un peu comme si j'étais dans un endroit où je pouvais me soulager, pouvoir faire sortir mes émotions, pouvoir me calmer. Bon, à la maison, parfois, quand je suis dans ma chambre, parfois je danse pour un peu oublier... Le moment où j'ai pleuré, ou été en colère, ou stressé, ou angoissé. Peut-être le jour d'après, j'ai une évaluation. Et danser, ça sert à un peu à me soulager, à plus avoir ce stress, ou cette colère, ou cette tristesse en moi.
On lâche les bras le long de son corps. On lâche ses bras. On décroise ses mains. Voilà. Donc ça faisait un mouvement léger par la main. Et ensuite, ça faisait un mouvement où on repousse. C'est un mouvement dur. Et la tête, c'est léger. Un oiseau. C'est pas un oiseau qui passe, c'est ça. Encore une fois. Ensuite, on lance avec la musique. Non, on repart. Ensemble. Pas un seul qui part tout seul. Ensemble. Sans se dire, on se met d'accord. Super. Allez, on prend l'espace.
Martine Guigou, je travaille au Collège Quinet depuis 6 ans. Donc la classe de 6e 2 participe cette année, en plus d'être germanophone, à un projet danse. Donc en fait, c'est quand même un projet qui est porté par l'ensemble des enseignants qui travaillent avec ces élèves-là de 6e 2. Et c'est de s'approprier peut-être à la fois... Nous, en français, on travaille beaucoup sur les émotions, sur des aspects, sur des points de vue. Et donc, danser, c'est aussi une autre façon de s'exprimer. les élèves vont voir des spectacles de danse. On utilise ces spectacles et ces ateliers de manière à aller chercher peut-être un petit peu plus loin des choses qu'on a ressenties. Au départ, il y avait un petit peu d'appréhension, la peur du regard de l'autre. Et ça, on le ressent de moins en moins. Je les trouve plus détendus.
Même en cours.
Moins stressés au niveau de leur réussite. Bon, on dirait pas comme ça, parce qu'ils sont petits. Quand ils sont effervescents, quand ils n'arrivent pas à tenir en place, quand ils arrivent... Bon, pour eux, ils mettent un enjeu énorme hein, derrière leur réussite. Ça les a posés. Donc, on gagne en aisance dans toutes les autres pratiques, à mon sens.
Christiane Hert, Charles Dumas, qu'est-ce que vous pensez de cette expérience en danse à Marseille? Mais ça pourrait être la même chose avec la musique, les arts plastiques. La diversité des disciplines est telle que finalement, on peut se demander aussi quelles sont les fonctions de ces disciplines pour les enfants qui apprennent d'habitude de manière tellement classique dans la salle de classe, Christine Hert.
Bah justement, une des spécificités des enseignements artistiques, quelle que soit la discipline, c'est, les élèves l'ont bien dit, ils l'ont joliment dit, il y a une prise de risque personnelle qui fait qu'on va se mettre en danger un peu par rapport au regard des autres et on va prendre confiance en soi. Et il y a des apprentissages de groupe, de vie de groupe, pas toujours facile, hein, entre garçons-filles en l'occurrence, mais quelle que soit la discipline. Et il y a surtout une espèce d'aventure, c'est-à-dire que contrairement aux autres disciplines où il y a une réponse juste et une réponse fausse à la fin, quand je fais un exercice de maths, ouais, je peux me tromper. Là, l'erreur, elle permet d'apprendre. Et c'est ce qu'on leur met au cœur des enseignements artistiques. J'apprends en me trompant, je teste, je fais des expériences. Je crois que le mot d'expérience est au centre. Et il n'y a pas de faute. Il n'y a pas ce couperet qui tombe. Ça peut être bien ou moins bien. Je peux me rendre compte que je ne suis pas arrivée à ce que je voulais faire. Je peux toujours recommencer, je peux toujours améliorer. Je suis quelque part dans une logique de formation personnelle que je peux assumer complètement. C'est un peu dangereux. Il y a le regard des autres et ça rassure sur ce qu'on sait faire. Ça développe vraiment, vraiment beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais je pense qu'on est d'accord
avec vous. Et pour moi, j'ai le mot de réconciliation qui me vient à l'esprit, puisque c'est aussi se réconcilier avec soi-même. Dans le domaine où je travaille, parmi le public auquel nous sommes confrontés, ce sont des jeunes qui sont en manque de confiance en soi et qui sont...
Qui ont beaucoup raté scolairement.
Qui ont raté scolairement et du coup qui se sont exclus eux-mêmes d'un système. Et donc, quand on les met face à l'institution, ça ne passe pas bien, alors que par la pratique artistique et d'être placé dans cette dynamique d'expérience leur permet de se réconcilier avec eux-mêmes dans le sens où ils retrouvent confiance en eux-mêmes et du coup entrer dans un rapport avec l'adulte ou avec, avec les autres. Et pour moi, c'est tout à fait émouvant et ce sont des discours que nous entendons. Alors pour répondre à votre question, est-ce que la musique, la danse, oui, ici, ces jeunes se disciplinent, écoutent, ils apprennent, ils s'imprennent et du coup, c'est ce qu'on a.
Est-ce que ces projets d'ailleurs doivent toujours fonctionner sur la base du volontariat? Qui est intéressé dans la classe pour faire partie d'un projet danse ou d'un projet théâtre? Parce que à la Fondation d'Auteuil, Charles Dumas, vous dirigez donc l'Académie des Arts et c'est pas une option en fait.
C'est pas une option, il n'y a pas le choix. Non, il n'y a pas le choix parce que ce sont des enfants qui sont placés, vous voyez, qui nous sont confiés. Donc de fait, ils assistent. Évidemment, pour nous, le pari, c'est de les gagner. Et évidemment, alors certains ont cette fibre, etc. Et puis,
mais là, ce n'est pas juste un petit cours de dessin ou de,
ce n'est pas
de musique.
Un cours de dessin, hein, c'est un programme.
C'est il y a tout un programme. Alors, on peut faire musique et mathématiques,
voilà,
par
c'est
exemple.
Un programme. Par exemple, ce module que nous avons expérimenté maintenant depuis 2 ans et qui marche très fort, nous avons vu des jeunes récalcitrants déjà au maths, et puis en se disant, mais qu'est-ce que fait le prof de musique avec le prof de maths dans ce cours? Alors que là, nous étions en train de démarrer, de leur donner goût à rentrer dans le monde des fractions. Alors ça, c'était extraordinaire. Alors, il y a une petite vidéo qui est très sympa que vous pourrez voir sur notre site de l'Académie des Arts. On voit ces jeunes au départ qui disent oh, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ces gars-là. Et puis, petit à petit, écouter la musique, rentrer, voilà, en écoutant la musique en la voyant s'inscrire au tableau, et puis après de commencer à faire des devoirs sur table.
Les musiciens classiques sont en général très bons en maths, hein, d'ailleurs.
Mais par contre, là, nous avons des jeunes dyslexiques, atteints d'hyperactivité, et même des gamins précoces, mais tout ça n'était pas révélé tant que nous ne les avions pas mis dans cette optique de travailler avec la musique.
Est-ce que ça développe aussi d'autres zones du cerveau, d'autres intelligences, l'éducation artistique, Christiane Hert?
Alors, oui, la question est ouverte. Il y a un certain nombre de recherches qui tendent à prouver, par exemple, effectivement, que la pratique musicale va activer certaines zones du cerveau qui sont également activées quand on est dans du logico-mathématique, par exemple. Ça développe aussi des comportements. L'attention, par exemple, la concentration, la mémorisation sont absolument nécessaires. C'est un vrai travail, la pratique artistique. C'est pas juste récréatif. Et c'est une des difficultés des profs, c'est de faire passer cette dimension-là. On y travaille vraiment. On y apprend des choses, on revient dessus. Et de fait,
les enfants qui apprennent à dessiner, par exemple.
Alors les enfants qui dessinent.
C'est évidemment le prélude à l'écriture aussi en maternelle.
Le geste graphique aide à être précis, à travailler ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la motricité fine, chez les très jeunes enfants déjà. Ça n'empêchera pas un enfant qui a du mal à écrire, à être bloqué, parce que dès qu'on introduit le sens dans l'écrit, il oublie qu'il sait écrire, parce que son problème, c'est de dire quelque chose avec les mots, c'est pas de les tracer, ce n'est pas de les dessiner. Donc, le geste est pareil, l'outil est pareil, mais la fonction n'est pas la même. Donc, ce n'est pas magique. Ça ne résout pas les difficultés, mais ça donne confiance en soi pour les affronter.
Comment on forme les enseignants qui vont enseigner les arts plastiques, le dessin communément appelé comme ça, ou la musique? Vous vous occupez de former des enseignants en arts plastiques. Comment on les forme? Parce qu'ils arrivent, ils sont très cultivés, et puis dans la classe, c'est le foutoir souvent, parce que la note compte pas beaucoup dans la moyenne, etc.
Parfois, il n'y a pas de note du tout d'ailleurs. On essaie de ne plus les former à attendre une note, mais à réaliser ce qu'ils apprennent, c'est-à-dire à prendre conscience qu'ils ont appris quelque chose, même s'il n'y a pas de notes. Oui, c'est difficile, c'est un métier difficile de partager, parce qu'on est convaincu quand on veut devenir prof d'art plastique, de musique, on sait que c'est important. Et les enfants en face, ils ont l'importance du destin scolaire, le métier d'élève, il n'y a pas grand-chose d'important autrement que le bulletin scolaire. Donc on essaie de s'appuyer sur leurs intérêts, de les faire travailler sur des choses qui les intéressent déjà, et on les tire du côté de champ artistique. Par exemple, le selfie, les images numériques, ils les pratiquent tous.
Ouais, même donc, si on n'a pas la fibre pour le dessin, on peut intéresser tous les élèves.
Oui, on a surtout pas la prétention de former des artistes à l'école. Il y en a qui deviendront peut-être artistes.
Alors, dans notre pratique pédagogique, ce que nous demandons à nos profs, c'est d'avoir aussi ce volet d'éducateur. C'est-à-dire que je suis convaincu aujourd'hui qu'un prof ne peut pas qu'être prof. Et nous-mêmes, à Auteuil, nous avons des profs et des éducateurs. Ce sont deux corps, malheureusement, des fois, qui ne se parlent pas trop. Mais nous, ce que nous aimerions faire, c'est d'avoir de plus en plus de profils de jeunes professeurs qui aient à la fois ce volet d'accompagner et de pouvoir transmettre.
Ouais. Vous nous appelez les voisins, les voisines. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter comme discipline artistique à l'école? Qu'est-ce que ça apporte aussi dans la formation des enfants, des jeunes? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Où que vous soyez dans le monde, si vous avez des expériences à raconter, des découvertes artistiques avec les jeunes. On accueille un auditeur qui nous appelle de Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Bouna.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Bouna, vous êtes directeur d'école, d'une école privée à Nouakchott. Et l'art a une place importante dans les journées des élèves chez vous?
Ah oui, bien sûr. D'abord, ça apporte un peu d'épanouissement aux élèves. Les élèves qui ne se sentent pas très bien pour les matières mathématiques ou les lectures, parfois ils s'expriment bien par le dessin. Et ça les épanouit et ça les lie avec leur école.
Oui.
Donc, moi, je trouve que, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'inné? Un élève qui aime graviller sur une feuille, c'est déjà quelque chose.
Oui.
Un élève qui chante déjà, il vient à l'école en chantant.
Oui.
Donc, il suffit seulement de les encourager, de ne pas leur dire qu'ils ne font que bavarder, faire du bruit ou bien déchirer les papiers. Moi, j'aime bien ça.
Oui.
Et ils prennent un peu de confiance en eux. Et parfois, j'ai découvert qu'ils sont moins violents lorsqu'ils ont un moyen de s'exprimer.
Mais alors concrètement, vous avez des espaces, des moments de la journée qui sont réservés à la musique, au dessin par exemple, dans votre école primaire?
Le dessin, c'est à l'école primaire, même au jardin, le dessiner, colorier, c'est l'une des matières principales.
Oui.
Maintenant, quand ils sont un peu plus grands, il y a le mois de juin qui va bientôt débuter. Nous allons préparer des chorégraphies que nous allons présenter aux parents d'élèves en fin d'année.
Ah, donc vous faites danser tous les élèves?
Oui, tous les élèves. Au début, c'était un scandale en Mauritanie, faire danser des filles ici.
Ah bon?
On me l'a beaucoup reproché.
Oui. Oui.
Mais après, finalement, les gens ont vu que ça fait du bien aux enfants et les enfants aiment. Oui. Et puis,
Et vous faites danser les filles et les garçons ensemble?
Les filles.
Dans le même
les
spectacle?
Les filles et les garçons ensemble. Absolument.
Ah oui. Et aujourd'hui, les parents, que disent-ils? Comment réagissent-ils?
Non, j'ai fait entrer la tolérance dans les foyers. Maintenant, on laisse les enfants s'exprimer, je crois. Nous n'en sommes pas la meilleure école, mais c'est l'école où tout le monde peut s'exprimer.
Restez avec nous, Bouna, une minute. Je voudrais vous lire une question d'un auditeur qui nous a été postée, de N'Djamena. Peut-être vous avez des éléments de réponse à nous apporter avec nos invités. Achille nous demande à quel âge est-il utile d'enseigner les arts à l'école et surtout à quel moment. Il dit, moi je verrais plutôt cet enseignement le matin ou le soir parce que je trouve assez bizarre de passer d'un cours de guitare ou de théâtre qui sont des matières passion, selon Achille, à un cours de maths qui sont des matières de concentration. Qu'est-ce que vous pensez de sa question, Achille, la question d'Achille Bouna?
Elle a deux volets. D'abord, les enfants, j'ai envie de dire qu'ils sont nés artistes. Il est plus facile de faire répéter une chanson à un enfant que faire répéter une phrase. Bien, autre chose, à quel moment il faut les faire...
Dans la journée.
Dans la journée. Moi, je préfère alterner les matières qui demandent beaucoup de concentration avec celles qui sont plus ou moins récréatives. Quand on leur demande de faire un effort mental, moi, tout de suite après, j'alterne avec une matière qui demande un peu de récréation.
Mmh. Oui, récréation ou émotion, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut employer, mais qu'est-ce que vous en pensez, Christiane Hert? Qu'est-ce qu'on peut répondre à Achille?
Moi, je pense qu'effectivement, on ne peut pas demander à des enfants d'être concentrés sur une matinée complète. On leur demande d'être concentrés aussi en art, mais c'est un autre type de concentration. Il y a aussi du mouvement, c'est-à-dire on est très statique à l'école, donc le fait de pouvoir bouger, chanter, laisser le corps s'exprimer, c'est important, quelle que soit la pratique artistique, en alternance avec des moments d'apprentissage différents. On apprend dans tous les cas, mais de manière différente, donc ça complète en fait.
Et Charles Dumas, le programme de l'Académie des Arts à la Fondation d'Auteuil mélange tout,
alors,
justement.
Alors nous avons beaucoup travaillé sur un emploi du temps aménagé, justement, je suis tout à fait d'accord avec Bouna, de dire oui, effectivement il y a un rythme, il y a un biorhythme à respecter, et puis aussi par exemple le cours de mathématiques a eu lieu à 14h30 après la cantine dans l'après-midi, mais un module de mathématiques et de musique, alors c'était quelque chose de tout à fait fantastique. Et je crois que pour réagir à ce que dit notre ami Bouna, et que je félicite d'ailleurs, et d'ailleurs Bouna, si jamais vous avez des questions, faut m'écrire en direct. Et en fait, c'est de dire aujourd'hui, c'est de permettre à ces jeunes de s'exprimer. Et du coup, ils ont énormément de connaissances, mais par rapport aux critères que nous demandons dans une école classique, ils ne peuvent pas affirmer cette intelligence, cette connaissance. Donc on est lié à une espèce de culture générale, connaissance générale, alors que ces jeunes ont besoin de s'exprimer.
Bouna, vous avez fait des découvertes vous-même en tant qu'enseignant dans votre propre salle de classe avec l'éducation
artistique. Absolument. Et si je peux me permettre une petite anecdote. Il y a un enfant qui n'est pas idiot du tout, mais qui ne parvenait pas du tout à lire et à calculer. Et par chance, j'ai reçu un optomètre ici, un médecin qui s'occupe des yeux, et il m'a dit que l'enfant n'a rien, sinon qu'il a une mauvaise vision. Et moi, j'avais découvert qu'il dessinait divinement bien, mais il ne savait pas lire. Et maintenant que nous avons corrigé sa vision, c'est devenu un élève, quand je l'entends lire, j'ai la chair de poule.
Mais comme quoi, il faut du temps.
Exactement, en fait. Exactement. Et effectivement, ça permet aussi de mieux se questionner sur l'enfant. Merci beaucoup, Bouna, de nous avoir téléphoné. Vous continuez de nous appeler. On parle de l'éducation artistique à l'école. Alors, à l'école, de l'école maternelle, au baccalauréat, à l'université, bien sûr. Si vous avez participé à des projets, à des initiatives, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Enfant, je suis enfant. Enfant que je suis, j'ai un parcours que je poursuis. Cependant, j'ai des droits et des devoirs. Derrière moi, j'ai toute une famille que je suis en train de voir. Sincèrement, c'est tellement magnifique de les respecter afin d'apprivoiser. J'apprends en esprit à obéir tout en ayant le sourire. Parce que c'est spirituel d'être intellectuel. Ouais, parce que c'est spirituel d'être intellectuel. Et même si je dois le respect à ceux qui m'aiment, vous mériterez de moi le meilleur que moi j'aime. Pour un meilleur avenir, ce dont tu veux devenir, c'est radieux, il te faut du sérieux. Car t'aimes la ration, l'affection, arrête de fondre en larmes, en apercevant l'alarme, car ne t'apportera que de la douleur et non de la douceur. Mais pense faire des bons choix, afin que celle-ci te visite, dont une joie. Je suis cependant un être raisonnable, j'ai autour de moi mes semblables. Je mérite ce droit de parler, exprimer mes émotions, sentiments, rigoler. J'ai le pouvoir de dire non, quand il s'agit de dire non. Souvent je suis réprimandée, la parole me permet de me libérer. Toujours entendre, accepter, je peux plus le supporter. Quoi qu'il en soit, cela fait partie de mon droit. Facile et compréhensible pour ceux qui font le droit. Je lutte contre la domination par cette bonne et douce parole. J'applique les droits de l'enfant, je ne fais que jouer mon rôle. Alors sois attentif, adulte, et donne-moi, offre-moi cette opportunité d'exister et de grandir sainement. Car hier, tu as été enfant sûrement.
Enfant, je suis.
Charles Dumas, vous êtes le directeur de l'Académie des Arts à la Fondation des Apprentis d'Auteuil. C'est vous qui nous avez prêté cette chanson. Elle a une histoire particulière.
On a parlé d'émotion. Alors là, je suis tout ému, puisque voilà, c'est quelque chose que nous avons enregistré il y a 15 jours à Brazzaville avec, des associations regroupant des enfants des rues, des orphelins, donc sous l'égide du RAIPER, qui est un réseau qui gère ces associations. Et puis l'Académie des Arts est venue avec ses jeunes aussi pour participer à l'enregistrement.
Donc ce qu'on entend là dans la chanson,
alors,
ce sont
c'est
des jeunes
jeune
de Brazzaville.
Kelly, qui est de Brazzaville, qui était avec nous pendant 15 jours. Donc nous avons répété et nous avons pu enregistrer avec des musiciens brazzavillois.
Ouais. Au studio Patmos.
Dans le studio Patmos à Brazzaville. Et puisque bon, cette année, c'est la signature c'est l'anniversaire des 30 ans de la signature des droits de l'enfant. Et donc, le RAIPER m'avait demandé, puisque mon travail aussi, c'est d'être directeur artistique. Mmh. Bon, je suis musicien et chef d'orchestre, etc. Mais du coup, nous avons pu intégrer avec l'Académie des Arts, comme chaque année, nous faisons un voyage de fin d'études.
Ouais. Alors là, c'est la découverte artistique des élèves de la Fondation d'Auteuil, mais en même temps, couplée au voyage. Donc évidemment, c'est très, très, très attractif.
C'est très important de voyager. On dit que les voyages forment la jeunesse, mais encore plus aujourd'hui, puisque nous avons tellement de facilité de voyager, ne serait-ce que par Internet.
Mais là, vous avez quand même des privilèges, vous avez bénéficié de fonds.
Nous avons bénéficié de fonds, mais alors les fonds, il faut aller les chercher aussi. Alors c'est-à-dire qu'il faut du temps.
Ouais. L'Europe répondra à des appels d'offres.
Voilà, tout ce qui touche à l'artistique coûte cher. Ouais. Et ça, il faut le dire, parce que...
Et c'est dur d'aller chercher de l'argent pour de la formation artistique avec les jeunes.
Parce qu'il faut convaincre. Alors si demain, vous dites, on va former des jeunes, voilà, à la restauration, etc. Oui, ça marche. Mais dans le domaine artistique, vous dites, quoi, vous allez faire chanter, vous allez en faire des petits artistes, c'est quoi, etc. Alors que non, nous sommes bien inscrits dans un programme de raccrochage aux enseignements.
Vous allez en faire des citoyens, c'est déjà pas mal.
De faire des citoyens, de faire des êtres responsables. Et en plus, ces jeunes qui sont venus avec moi de Paris sont tout à fait dans le service.
Allez, on repart au standard 33 1 84 22 71 71. Pendant que vous nous appelez, on accueille une voisine à Kinshasa. Bonjour Marie-Madeleine Doundou.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins voisines.
Vous avez créé le Centre d'éducation artistique pour enfants, la Yula Academy à Kinshasa en République démocratique du Congo. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Je voudrais vous faire écouter un message d'un de nos auditeurs, Emmanuel, qui est à Yaoundé, qui a posté il y a quelques heures sur WhatsApp. Écoutez-le.
Les arts et la culture dans le programme scolaire aujourd'hui en Afrique est une chance inouïe parce que ça va réveiller chez les nouvelles générations le goût de l'émerveillement et puis de pouvoir être en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, nous sommes dans le combat contre le réchauffement climatique et je vous assure que si depuis les indépendances, dans les programmes scolaires, on avait intégrer les arts et la culture, l'Afrique serait très évoluée aujourd'hui et elle serait bâtie sur un modèle du goût de l'émerveillement, de la protection de l'autre et de la nature, de l'environnement. Parce que les arts et la culture sont des secteurs d'activité qui développent l'homme et la vie tout entière. Il faudrait que les gouvernants africains puissent permettre aux jeunes Africains de savoir être artistes et artisans à partir de leur continent, dans leur pays respectif. C'est très important. Et les Occidentaux sont bien placés pour confirmer et affirmer ce que je dis et ce que beaucoup d'autres pensent. Voilà, l'artiste n'a pas un statut et il faudrait que, pour le respect de ces métiers-là, des arts de la culture, que ça commence dès la base, à partir des écoles primaires, et des lycées, des collèges et puis des universités, enseignement secondaire et dans les universités. Merci.
Et merci à vous Emmanuel qui a posté son message avec en arrière-plan le chant des oiseaux à Yaoundé. Il doit être dans un joli jardin, j'imagine. Marie-Madeleine Ndoundou à Kinshasa, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, il a tout à fait raison. Lui, il est plus revenu sur l'émerveillement, mais je pense qu'il n'y a pas seulement l'émerveillement, il y a aussi la créativité. Ça veut dire qu'avec l'enseignement des arts et de la culture à l'école, on développe le sens de la créativité des enfants. Et dans un continent où effectivement nous sommes en mal de créativité, cela est très important. Je dis en mal de créativité parce que dans nos pays, effectivement, on a du mal à fabriquer même une simple aiguille. Vous comprenez? Alors, l'art peut permettre aux enfants de comprendre qu'ils sont en mesure eux aussi de créer quelque chose que les autres utiliseraient.
Ouais. Mais pourtant, la RDC est quand même un pays extrêmement riche, notamment en art graphique, avec certains peintres de renommée internationale. Aujourd'hui, quel est l'accès à l'éducation artistique au quotidien pour les enfants en RDC?
L'accès à l'éducation artistique n'existe plus. Je peux vous assurer que c'est inséré dans le système éducatif, mais ce n'est pas mis en application, surtout dans les écoles publiques. Dans les écoles internationales, privées, ils essayent de mettre en application cette éducation, mais dans la majorité des écoles fréquentées par la majorité d'enfants congolais, l'éducation artistique n'existe plus.
Faute de moyens, parce que le système scolaire, même globalement, est quand même assez à plat, mais du coup, vous, comment vous faites pour mobiliser les enfants, mobiliser surtout les parents, puisque vous proposez dans cette académie, la Yula Academy, il y a du dessin, il y a de la peinture, il y a de la musique, hein?
Oui, il y a de la danse, il y a la guitare, il y a le piano. Et il y a la peinture aussi et le dessin, et bien sûr d'autres disciplines artistiques que nous comptons ajouter. En fait, comment nous y prenons, c'est en adoptant une politique de proximité. Nous sommes un centre d'éducation artistique mobile, je vais dire. Mobile parce que nous allons vers les écoles. Nous allons vers les écoles, nous collaborons avec ces écoles en disant, voilà, nous voulons proposer une éducation artistique, des activités artistiques pour les enfants après l'école.
Ouais. Alors, évidemment, c'est payant. C'est $20 par mois et par discipline. C'est beaucoup quand même pour les familles.
Bon, on ne va pas dire que c'est peu, mais c'est $20, c'est accessible pour la classe moyenne. Parce que ici, si vous renseignez, vous saurez que la plupart de temps, dans les écoles internationales, l'éducation artistique coûte cher. du coup, il y a, on a l'impression que c'est un luxe de pouvoir faire bénéficier à son enfant d'un cours de danse, de guitare ou de peinture. Oui. Alors, à $20, ceux de la classe moyenne sont en mesure de payer.
C'est déjà un peu plus accessible. Et évidemment, il vous faut rémunérer les enseignants. Vous faites, en quelques mots, Marie-Madeleine Doundou, des découvertes de talent avec certains enfants.
Oui, effectivement. Je dirais qu'il y a tous les enfants ont des talents, hein, il faut le dire. Oui. Mais il y a certains enfants qui ont des talents exceptionnels. Comme actuellement, nous avons découvert un jeune, il a pratiquement 18 ans, mais il a écrit une bande dessinée incroyable. Alors, en regardant, on se demande, mais comment des talents pareils peuvent pourrir? Les bandes dessinées n'existent plus dans nos maisons. Vous comprenez?
Oui, oui.
Alors que cet enfant a du talent, il a écrit une bande dessinée que d'autres enfants congolais et d'ailleurs pourront lire.
Ouais. Pour conclure, Marie-Madeleine Doundou, je vais vous lire le message de Basile à Parakou au Bénin qui dit exactement la même chose. Il dit il faudrait enseigner l'art dans les écoles parce que les artistes africains les plus talentueux sont des artistes qui n'ont reçu aucun enseignement. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa qui est très connue, mais et avec ce qu'ils ont.
L'Institut National des Arts.
Exactement. Avec ce qu'ils ont comme intelligence, poursuit Basile, potentiel et intuition, s'ils avaient eu un maître pour les aider à exprimer tout ce qu'ils ont en eux, ils seraient encore meilleur. Ça pose la question effectivement de l'art des autodidactes d'une certaine manière aussi, n'est-ce pas, Christiane Hert?
En fait, moi je reviendrai sur le terme l'enseignement artistique. Très souvent, quand on va enseigner l'art, le prof crée simplement les conditions pour l'individu de faire ce qu'il sait faire et de le développer. C'est-à-dire, il ne va pas donner une norme, il ne va pas enseigner comme on enseigne les... On part du potentiel des individus pour qu'ils puissent arriver... C'est un peu comme une plante, quoi, pour qu'ils puissent arriver à se développer. C'est extrêmement difficile à faire, mais c'est faisable aussi avec pas trop de moyens.
Charles Dumas.
Alors moi, j'aimerais juste réagir en disant, dans l'Académie des Arts, le fait d'avoir ces modules, par exemple musique et mathématiques, nous avons aussi aujourd'hui créé un chœur suite à cela, puisque ces enfants ont maintenant accès à la pratique artistique.
Une chorale, hein.
Oui, un chœur qui chante, qui danse. Alors, et nous en avons créé plusieurs. Voilà, on en a plusieurs comme ça. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui un groupe professionnel qui s'appelle Family One et avec lequel nous sommes allés loin. Effectivement, je rejoins la personne qui Emmanuel. C'est vrai qu'en Afrique, il y a du talent et simplement, il faut aussi que nous puissions aussi partager et les aider.
Merci à vous, Marie-Madeleine Doundou, d'avoir été en ligne avec nous de Kinshasa. Bonne chance, parce que je sais que vous avez besoin d'aide, notamment pour trouver des instruments de musique. On vous a prêté des pianos électriques. Vous n'êtes pas encore suffisamment équipés. On vous souhaite bonne chance.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci. Donc, vous avez créé la Youla Academy à Kinshasa, 33 1 84 22 71 71. On accueille un auditeur qui nous appelle de Paris. Bonjour, Philippe.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, photographe,
oui,
scientifique.
Oui, oui, exactement.
On vous écoute, vous êtes en direct.
Bah, écoutez, j'ai enseigné, moi, la photographie artistique dans les humanités à l'école polytechnique avec des futurs ingénieurs,
hein,
qui étaient d'ailleurs
oui.
en dernière année.
Oui.
Et bon, c'était assez intéressant parce que, évidemment, ce sont des gens qui sont beaucoup dans la rationalité scientifique et on leur apprend l'irrationnel, hein, on leur apprend à travailler avec leur émotionnel.
Ça doit les déstabiliser tout de même.
Bah écoutez, moi je me suis beaucoup posé de questions au départ, savoir si j'allais faire ça ou quelque chose de très technique comme c'était fait d'ailleurs avant moi. Et en fait j'ai choisi, non pas la facilité mais ce qui me plaisait. Et je leur ai fait faire le travail qui moi m'intéressait, parce que je suis également artiste, c'est-à-dire de travailler sur soi, quoi, d'essayer d'avancer avec ses propres capacités intérieures.
Ouais. Et qu'est-ce que ça a produit cette rencontre entre rationnel et l'irrationnel?
Ça produit quelque chose que d'ailleurs sur lequel je m'étais d'ailleurs posé des questions quand il y a eu les questions de l'Erika. Il y a eu des articles qui étaient sortis dans les revues économiques à l'époque qui disaient que la personne qui avait dû gérer l'accident, qui aurait dû faire venir du pétrolier quand il y a eu cette catastrophe, il y avait des secours qui sont arrivés beaucoup trop tard parce que la personne qui dirigeait ça avait eu des peurs peut-être de carrière, je sais pas quoi, et elle n'avait pas su gérer son irrationnel. Et on disait à l'époque, dans ces articles, que les gens qui n'arrivaient pas à gérer leur irrationnel ne pouvaient pas gérer leur rationnel. Et je pense que c'est ça qu'on amène dans ces niveaux-là. Oui. Je pense que dans les grandes écoles, si on voulait faire que les gens soient assez performants au niveau de leur irrationnel, c'est-à-dire de toutes les peurs qu'ils peuvent avoir, on pourrait, grâce à l'art, les amener à gérer davantage leur irrationnel.
Parce qu'ils ont plus travaillé aussi leurs émotions. d'une certaine manière.
Ils l'ont travaillé, je dirais, de façon ludique, et donc ils ont appris à se connaître, et j'ai eu des élèves, moi, qui sont venus me voir après en me disant qu'ils utilisaient des méthodes que je leur donnais, et qui ont pris des exercices, qui d'ailleurs, moi, j'avais appris à d'autres pédagogues avant, et qui leur permettaient de monter leur boîte, et que ça marchait. Ils sont venus me le dire, il y en a même
incroyable.
Un qui m'a écrit une lettre.
Ouais. Vous, réalisateur et photographe, donc enseignant à l'École Polytechnique d'ingénieurs. Mais merci beaucoup, Philippe, de nous avoir apporté aussi cette dimension du débat. Quelle est aujourd'hui, Christiane Hert, en quelques mots, on arrive à la fin de cette discussion, mais quelle est l'approche de la France par rapport à d'autres pays? Vous avez vu des choses extraordinaires ailleurs par rapport
Je me suis un peu promenée, j'ai fait aussi une étude comparative entre les pays germaniques et puis la France au niveau de l'éducation artistique. On est dans une ouverture depuis quelques années où on casse un peu les hiérarchies entre les beaux-arts et les arts appliqués en France. Il y a longtemps une dévalorisation de ce qui est purement manuel. Et là, on est en train d'y revenir en introduisant le design, les arts appliqués. Dans d'autres pays, il n'y a pas eu cette hiérarchie. On n'a jamais arrêté de faire de l'artisanat en même temps qu'on faisait de l'art avec un grand A. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Par exemple, en Suisse, il y a de l'art textile, il y a de la décoration, de la peinture murale, des choses qui sont techniques. La dimension technique n'est pas niée. En France, on a un peu de mal avec la technique. On a un peu de mal à dire on apprend à dessiner, on a un peu de mal à...
C'est en Finlande ou en Suisse qu'il y a des cours de tricot
Alors en Finlande, oui, il y a des collègues qui, dans les écoles, il y a une pratique de tricot qui est aussi une réhabilitation des pratiques féminines. C'est extrêmement intéressant de dire que ce n'est pas dévalorisé. Il n'y a pas la peinture à l'huile d'un côté faite dans nos mémoires essentiellement par des messieurs et le tricot et la broderie faite par madame à la maison.
Ça, là, c'est
donc,
mixte.
La Finlande essaie de bien rétablir
c'est
ça.
C'est mixte et c'est inséré dans les disciplines artistiques.
C'est à l'intérieur. Si vous êtes dans l'école et que vous avez envie de créer votre projet, par exemple, ils travaillent sur le végétal. Hein, le sujet, c'est le végétal. Certains vont le réaliser en peinture, certains vont le réaliser en tricot, en broderie, en installation. Le médium est libre. C'est l'idée qui est importante derrière.
Charles Dumas, vous, en tant que directeur de l'Académie des Arts à la Fondation des Apprentis d'Auteuil, si vous aviez un message à faire passer pour les politiques publiques en général, les décideurs?
Eh bien, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est vraiment de prendre au sérieux cet enjeu d'introduire davantage l'art au cœur même de l'enseignement, puisque le jeune sera pris dans sa globalité. Et puis aussi, c'est une manière de l'équiper face à, dans un monde, je dirais, en constante perturbation, en mutation. Et pour nous, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de pouvoir équiper émotionnellement, intellectuellement, ces jeunes pour travailler sur du long terme.
Et je crois que vraiment les contributions de nos auditeurs ont été très, très fortes en argument là-dessus. Merci à vous tous les voisins et les voisines, parce que c'est vraiment vous qui faites aussi l'émission tous les jours. Merci à vous Charles Dumas, donc Académie des Arts à la Fondation des Apprentis d'Auteuil.
Merci beaucoup.
Et merci à vous Christiane Hert, formatrice à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de l'Académie de Paris. Dans quelques instants, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Comme chaque semaine, la chronique de Marie-Rose Moreau. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes pédopsychiatre, directrice de la revue transculturelle L'Autre. Et dans notre émission, vous reposez régulièrement les grandes questions que se posent les parents d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs. Toutes ces chroniques sont disponibles par série, en podcast. Et après votre série sur le sommeil des enfants, maintenant une série de chroniques sur comment être père, ici et ailleurs. Premier épisode, être père en Europe. Alors il y a quand même eu beaucoup de changements durant ces dernières décennies, pas seulement en Europe d'ailleurs. Le vrai bouleversement, c'est la place du père, c'est l'autorité du père.
La manière d'exercer son rôle de père et de tenir sa place de père a beaucoup changé. Hier, dans nos sociétés patriarcales, le père était celui qui travaillait et assurait la vie de la famille. Il était en lien avec l'extérieur et était la figure d'autorité incontestable à l'intérieur de la famille. Il fallait lui obéir car c'était le père. Il ne s'occupait pas beaucoup des enfants directement. Le rôle d'élevage et même en grande partie d'éducation était délégué à la mère et lui fixait des règles, le cadre et les modalités d'être ensemble. En général, il ne s'occupait pas du tout des petits en dessous de l'âge scolaire.
Et alors, à quel moment, Marie-Rose Moreau, son rôle a changé dans nos sociétés, le rôle du père ?
Alors, bien sûr, c'est toujours des changements de fond, c'est progressif, surtout quand c'est des changements de cette nature. Mais on peut dire que, disons, à partir des années 1968, la remise en question de l'autorité des pères et une plus grande symétrie entre les pères et les mères, entre les femmes et les hommes, même si ce n'est pas encore tout à fait ça, et bien que ces changements profonds de la société, de la structure familiale, eh bien que ça a changé le rôle du père.
Bon, mais 68, c'est quand même assez loin. Est-ce qu'aujourd'hui, les pères savent où ils en sont ? Avec leur rôle, avec leur fonction, avec leur place ?
Alors, en fait, on dit que c'est pas si facile aujourd'hui d'être père parce que, justement, il y a eu beaucoup de changements et assez rapidement. En tous les cas, la place du père, elle est plus aussi rigide. Les pères partagent les rôles de maternage et d'éducation auprès de leurs enfants. En général, de plus en plus, depuis le début de la vie des enfants, ils le font, ils peuvent le faire et souvent, ils s'occupent de la vie quotidienne des enfants.
Les pères savent changer des couches aujourd'hui. Ça semblerait incongru, un père qui dirait qu'il ne l'aurait jamais fait. Est-ce que, pour autant, ça a bouleversé la façon d'être père ?
Alors oui, ça a bouleversé parce que être auprès des enfants, s'occuper effectivement du corps des enfants, des choses quotidiennes, de changer une couche, de donner à manger, etc. Eh bien, ça modifie la relation avec les enfants. Il y a beaucoup d'études récentes qui s'occupent de ces questions et qui montrent ces questions, mais qui montrent aussi que même si c'est possible pour les pères de le faire, eh bien, les mères continuent à passer beaucoup, beaucoup plus de temps que les pères auprès des petits. En tous les cas, le fait que les pères soient plus proches de leurs enfants, ça a modifié aussi la manière d'être père, en particulier, ça a modifié leur autorité. Cette autorité, elle est plus donnée et indiscutable. Ils doivent trouver des manières, des nouvelles manières d'exercer cette autorité, tout en étant très proches des enfants, et donc de nouvelles manières d'être père, sans pouvoir faire comme leur propre père faisait. On pourrait dire pour les pères, comme on le dit pour les mères, on ne naît pas père, on le devient.
À méditer, Marie-Rose Moreau. On se retrouve pour une prochaine chronique, donc épisode numéro 2, la prochaine fois, la place du père auprès des bébés, puisque vous nous disiez qu'auparavant, les pères n'arrivaient dans la vie des enfants que bien plus tard. Évidemment, cette série de chroniques est à réécouter ou à écouter, à découvrir en podcast sur les plateformes de téléchargement, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Alors, on dit quoi ?
Diarra Ndiaye vient de passer une tête dans le studio pour annoncer le programme de Alors, on dit quoi ? Bonjour Diarra.
Bonjour Emmanuel.
Alors, vous allez nous parler d'histoire de fratrie ce week-end.
Tout à fait, nous allons parler des relations entre frères et sœurs, aînés, cadets, benjamins. Quelle différence entre les filles et les garçons ? Il n'existe aucune étude sociologique à grande échelle sur l'impact du rang dans la famille, mais on se demande tout de même si notre place dans la famille est déterminante dans notre personnalité, et on va surtout voir si cette position dans la fratrie influence un peu, voire beaucoup, notre vie d'adulte.
La fratrie entre nous, ça se passe très bien, c'est une convivialité entre nous. Bon, il ne faut pas dire que tout est rose aussi, hein, parce que souvent, tu sais, ce qui fait aussi le charme d'une famille, c'est quand vous vous chamaillez tout le temps et que après, ça va, vous réussissez à vous comprendre après. Et aussi, il y a l'aspect où vous vous entraidez un peu dans tout ce que vous faites, dans vos projets. Donc, c'est une famille assez soudée et on se comprend dans tout ce qu'on fait.
Bref, il va y avoir de l'ambiance dans le studio d'Alors on dit quoi sur les fratries. Le rendez-vous, c'est samedi à
11h10 temps universel, Emmanuel.
C'est bien noté, Diarra. À très vite. Lundi, 7 milliards de voisins. Chez nous, la parole est à ceux qui veulent entreprendre en Afrique avec les conseils du coach Didier Akwété. Et vous pouvez bien sûr nous contacter dès maintenant avec vos projets ou vos galères de jeunes entrepreneurs ou entrepreneuses. 33 1 84 22 71 71 ou par mail 7milliards@rfi.fr. Merci à toute l'équipe et un grand, grand merci tout spécial à Sigrid Azerwal qui a assuré la production de cette émission pendant 10 mois. Merci aussi bien sûr au reste de l'équipe. Delphine de Dianous, Romain Dubrac. On se retrouve lundi.